les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Petit souci technique, mais alors, on est là ou on n'est pas là, que je sache précisément comment on continue, comment on avance. Les amis, Antoine Diers est des nôtres, le consultant juridique, Abel Boyi, l'éducateur. Nous sommes avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue. Et on attaque la troisième heure des GG, la troisième heure des grandes gueules, en direct sur RMC la radio et RMC Story la télé. Troisième heure des GG qui va nous amener à reparler de l'éclipse. Alors, c'est intéressant l'éclipse parce que ce soir, ce sera le phénomène qu'on va observer pour certains à condition d'avoir les lunettes. Voilà. Eh oui, moi j'ai les miennes, effectivement. Ouais, c'est stylé. Mais j'aurais aimé qu'elles soient d'une marque américaine, etc. Mais on n'a pas eu le temps de les faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir les écologistes qui disent en 99, le gouvernement Jospin à l'époque, en 1999, avait acheté 2 millions de paires de lunettes, l'équivalent de 2 millions et demi d'euros. Et il avait permis à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'en acheter d'en avoir. Alors, et il dénonce, les écologistes, un fiasco sanitaire, un fiasco de santé publique. Est-ce que c'était au gouvernement d'acheter une partie des lunettes? Ça, c'est pour l'éclipse. On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. À 11h20, on va regarder ce qui se passe du côté des VTC. Alors moi, je sais pas si vous faites partie de ceux qui utilisent beaucoup les VTC, mais on a remarqué que le service aussi s'était dégradé. Et là, pour les VTC, ce qui va se passer, c'est qu'on va les obliger, certains, à passer des examens. Avant, il pouvait y avoir une équivalence quand tu pouvais justifier que tu avais fait du transport de personnes, mais il y a eu beaucoup de fraudes à ce niveau-là. Donc désormais, pour les VTC, c'est examen pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va permettre de remonter le niveau? D'abord, on va s'intéresser à la prime des fonctionnaires. Prime, voilà. Prime des fonctionnaires, la part des primes dans le salaire des agents publics est passée de 20 à 25% entre 2015 et 2025. Ça, c'est en 10 ans. Pour un total, comme le disait tout à l'heure Laura, pour un total de 19 milliards d'euros. Le nombre des primes a été divisé. On est passé de 628 à 543 en 10 ans. Mais aujourd'hui, du côté des finances, de Bercy, si vous voulez, on dit faut rationaliser. C'est plus possible. On peut pas avoir 543 primes de fonctionnaires. C'est un système qui est complexe. Et en plus, on doit faire les économies. Et là, alors, je dis pas qu'on va faire 19 milliards d'euros d'économies, mais ils veulent quand même réduire la voilure. Alors, par exemple, il y a la prime télétravail. Moi, je savais pas. Il y a l'indemnité de résidence à l'étranger.
Ouais, ça, c'est les pépites, hein.
Il paraît aussi qu'il y a une prime de départ à la retraite pour le personnel marin de l'équipement au ministère de l'économie. Mmh. Vous rigolez, mais ce matin, Pierre Rondeau, qui officie sur RMC, qui éditorialise sur RMC, qui a trouvé une indemnité chaussure de 45 euros dans certaines administrations territoriales. Alors, ce sont des micro-primes qui ne concernent que quelques dizaines ou quelques centaines d'agents. Mais globalement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce qu'il faut faire le ménage dans les primes des fonctionnaires, dans les 543 primes? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Monsieur Antoine.
Moi, j'ai été agent de la fonction publique et donc directeur de cabinet dans plusieurs mairies. Et de mémoire, 50% de mon salaire était des primes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut effectivement distinguer les primes farfelues, primes de chaussures, etc., du fonctionnement de la fonction publique où une large partie du salaire des fonctionnaires est fait de primes. Alors d'ailleurs, ils s'en plaignent parce que la retraite n'est pas calculée sur la prime, etc. On évoquait également hier la situation d'un hôpital qui, pour attirer certains médecins, avait poussé fort les primes. Moi, je suis d'accord et très en soutien à comment dire au fait de tout mettre à plat et de donner un vrai salaire précis, etc., aux fonctionnaires, sans qu'on ait besoin de jouer sur les primes pour donner un salaire
décent. Somme nulle. Ouais, mais ce serait un jeu à somme nulle.
En fait, c'est exactement là où je veux en venir, c'est que bien souvent, pour l'essentiel des fonctionnaires, tu vas pas baisser leur salaire. Il est déjà inférieur au salaire du privé. Et il y a un certain nombre de cadres dans les grandes collectivités qui sont recrutés en tant que contractuels sur des contrats de droit privé et qui sont assez mal payés par rapport à ce qu'ils trouveraient dans le privé.
Donc, oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que tu dois calculer le truc. Le but du jeu, c'était dans le sens pour éviter que l'État dépense énormément d'argent, le deal, c'était les salaires des fonctionnaires étaient moindres, mais tu avais la sécurité de l'emploi, tu avais une retraite qui était calculée, je crois que c'est, enfin, c'est toujours le cas, hein, ouais, sur les 6 derniers mois ou ouais, les 6 meilleurs mois de ta carrière, les congés sont multipliés par minimum par deux. Ah bah si, entre l'État, bah, je peux te le dire, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est fonctionnaire, en tout, elle a quasiment plus de 2 mois de vacances. Et elle multiplie par deux, mais juste avec les juste
moi,
avec les RTT.
Moi, j'étais dans des collectivités où il n'y avait pas...
Je te dis pas que c'est le cas partout, je te dis que ça peut aller. Tu as ça, si ton enfant est malade, t'as un jour de congé. Si tu déménages, t'as un jour de congé.
C'est normal, tout le monde l'a.
Ah bon? Ah, moi, j'ai, oui, moi, j'ai jamais. Ah, non, moi, je pose malade, un. Alors, moi, je suis.
Non, pas l'enfant malade, mais,
bah, si je déménage, personne me paye, hein.
Parce que t'es libéral.
Ah, non, mais même quand j'étais salarié, on m'a jamais donné. Bah,
si, tu as droit à des jours. Quand t'as un déménagement, je crois que t'as droit à 24 heures ou 36 heures.
Oui, ça va.
Ouais, bah, je pense que ça doit être ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était le deal. Là, alors, j'entends, moi, que les fonctionnaires, et je l'entends très, très bien, pour en avoir plusieurs dans ma famille, qui sont pas bien payés. Eh ben, faisons un référendum à l'intérieur des fonctionnaires en demandant qu'est-ce que vous voulez, que vos salaires soient équivalents à ceux du privé et perdent vos avantages, ou alors on ne touche à rien. Et en revanche, on peut effectivement se poser la question sur certaines primes. Le déménagement à l'étranger, c'est 77 000 euros de primes. Non mais on
c'est
va où?
C'est énorme alors.
Mais on va où? Sérieusement?
Après, moi, je suis pas pour une mesure uniforme. On a, par exemple, 70 000 hauts fonctionnaires qui touchent plus de 15 000 euros par mois. Ouais, là, on peut bien raboter.
Par contre. Dans le privé, ces hauts fonctionnaires, ils toucheraient 20, 30 000.
Par contre, toucher aux petits fonctionnaires, je suis moins pour, mais les gros salaires, ceux qui ont des grosses indemnités, il faut aller au prorata de ton poste, c'est-à-dire tous les fonctionnaires des cabinets, des agences bizarres, là, tous ceux qui participent à la gabegie du train de vie de l'État, ouais, faut le faire. Et là, on peut parler de vraie justice sociale, mais le policier, le prof, l'infirmière ou autre, eux, faut les laisser tranquilles. Quand tu parles de ta mesure, effectivement, de reconsidérer la question salariale, en fait, pour qu'il y ait un meilleur équilibre. Tu sais très bien que ça n'arrivera pas tout de suite. Ça n'arrivera pas. Donc aujourd'hui, s'il faut faire quelque chose de façon concrète, tu rabotes sur les hauts fonctionnaires.
Eh ben, ce serait une erreur parce que aujourd'hui, la fonction publique peine à recruter des cadres de qualité. Toutes les collectivités n'arrivent pas. Tu vois, prenons l'exemple d'un directeur des transports dans une grande région. Mmh. Il gère des centaines de trains, il gère des milliards d'euros. Et avec la grille, on va péniblement lui proposer 5-6 000 euros pendant qu'un job équivalent d'ingénieur dans le privé, il serait payé 10 ou 15. Et donc, ça veut dire que notre système aujourd'hui empêche d'avoir les talents dans la fonction publique pour la gestion de services
fonctionnaires à plus de 15 000. Alors,
attends, et donc, je pense qu'il faut que diminuer le nombre de fonctionnaires, qu'il faut sortir des logiques
déjà, oui, ça faut
et
déjà
que
diminuer.
Celui qui est haut fonctionnaire, qui est nul, ne devrait pas toucher 15 000 euros. En revanche, celui qui est haut fonctionnaire, qui est très bon, on devrait pouvoir le payer 20 ou 30 pour qu'il reste au service du public.
Et puis attention, dans les primes, ce qui coûte dans les 19 milliards, tu n'as pas uniquement les primes qui sont données. Tu as ce que ça coûte en termes de logistique, d'administrative et des gens qui sont payés pour gérer les primes sur le plan administratif et logistique. Ouais. C'est ça aussi qui coûte de l'argent. Parce qu'on est dans un État qui est tellement étatiste que maintenant, on est obligé de créer du travail à toutes ces personnes qu'on a embauchées. Il est là le problème. Il faut mettre un coup pour reprendre Milei, il faut mettre un coup de tronçonneuse dans ce truc-là, puisque maintenant on crée des taxes, on crée des normes, on crée des trucs et des machins pour alimenter toutes ces personnes qu'on a embauchées, parce qu'un fonctionnaire ne peut pas être licencié. C'est dramatique.
On a Christine qui est directrice d'hôpital qui veut réagir. Bonjour Christine. Bienvenue dans les GG, bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes en direct avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de nettoyer les 543 primes de la fonction publique, alors?
Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on a des primes de toutes sortes. Pour une lingère, on peut avoir, par exemple... Est-ce que vous m'entendez?
Ah oui, parfaitement, je vous écoute attentivement.
Je veux dire, pour une lingère, on peut avoir, je sais pas, un euro de prime parce qu'elle a d'insalubrité. Pour une ASH qui fait un dimanche, elle va avoir 10 euros de prime de week-end. À mon niveau, moi j'ai 60% de primes sur mon salaire sur lequel je ne cotise pas à la retraite.
Bah voilà. 60%.
Mais dans ces primes, c'est énorme. Dans ces primes,
vous pouvez nous les décomposer, s'il vous plaît, Christine, qu'on comprenne.
Bah, disons que ça vient d'être fusionné parce que ce n'était pas pareil que la territoriale dans l'hospitalier. Mais j'avais une prime de logement où j'étais logée, mais par rapport à mes astreintes, et je fais une semaine d'astreinte par mois. Donc 7 jours sur 7. Donc si on devait me les payer en heures supplémentaires, ce serait largement plus. Je crois que c'est une prime de responsabilité, effectivement, quand vous êtes d'astreinte et que vous avez plus de 2000 agents à gérer et autant de patients, je ne pense pas que ça soit exceptionnel non. d'avoir une non, prime mais... de 1000 euros pour cette contrainte. Et si j'étais dans le privé, je gagnerais ni plus ni moins que le double.
Et pourquoi vous n'êtes pas parti dans le privé ?
Parce que je suis pour la sauvegarde du service public, parce que c'est le seul endroit où on pouvait devenir passer à SH et devenir directeur d'hôpital.
C'est ce que
moi,
vous êtes aujourd'hui.
De la base.
Bah c'est très bien, oui. Félicitations Christine,
j'ai
c'est tout à votre honneur de vouloir rester
la prime maintient la précarisation
dans le service
des gens.
Public. Mais voilà. Là où vous avez raison, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est devenu fou et que l'État a lui-même mis en place et aujourd'hui qu'il ne peut plus arrêter. Et je me mets à la place des fonctionnaires, puisqu'on rappelle que fonctionnaire, c'est pas une profession, c'est juste un statut.
Bien sûr.
Mais à la place de gens comme vous, ou de d'autres qui vont sûrement être avec nous au 32-16, c'est-à-dire c'est vous qui nous avez mis ça en place et maintenant vous nous dites que ça vous coûte trop cher et on est en train d'en faire les frais. Donc moi je serai fonctionnaire à partir du moment où ce sera enclenché, je me foutrai en grève. Je dis, vous moquez de moi, vous n'avez jamais voulu augmenter les salaires, vous nous avez mis des primes à n'en plus finir 543 aujourd'hui et maintenant vous dites non c'est pas bien, mais c'est de votre faute.
Sachant qu'attention dans le privé les primes que comme ça tu mets tous les mois etc, t'as un contrôle fiscal ou un contrôle URSSAF qui te fait redresser parce que c'est du salaire dissimulé.
Sauf que là, elle ne compte même pas en plus dans les retraites, ces primes.
Mais bien sûr que non, une prime, c'est dans le chômage. Enfin, là, en l'occurrence, il n'y a pas le chômage. Mais pour les retraites, si tu veux faire un prêt bancaire, pour quoi que ce soit, ce n'est pas comptabilisé. Et encore une fois, comme toujours.
Un prêt bancaire, ça a tendance à être comptabilisé.
Ils le comptabilisent.
Les banques comprennent que les fonctionnaires ont.
Oui, bien sûr.
On me les prenait pas. Mais voilà, enfin, à un moment donné.
Christine, en introduction de votre propos, vous disiez que vous n'étiez pas forcément hermétique à la mesure, mais pour vous, ça serait pour tous les fonctionnaires ou pour les fonctionnaires qui ont les plus gros salaires.
Si on doit simplifier, il faut simplifier pour tout le monde. Parce que les fiches de paye sont à certains moments incompréhensibles pour les agents. Moi, j'ai fait beaucoup de DRH. Et c'est vrai que c'est pas le temps que ça prend de mettre des primes, de comptabiliser les primes pour les salaires. Mais ça rend les choses incompréhensibles et illisibles pour tout le monde.
Exactement.
Et puis, de surcroît, je pense que ça fait 20 ou 30 ans que les fonctionnaires se battent pour avoir des vraies augmentations de salaire qui impactent la retraite.
Surtout que vous avez eu le point d'indice qui a été gelé pendant combien d'années en plus, Christine?
Je ne sais même plus.
Il y a presque 10 ans, quelque chose comme ça.
Oui, j'avais une dizaine d'années.
On a gelé pour les fonctionnaires, mais pas pour les retraités, tu vois.
Disons que moi, comme j'estime avoir un bon salaire, mais je travaille quand même 18 heures par jour, je m'estime favorisée par rapport à d'autres. Donc je ne vais pas...
Mais pensez-vous être considéré de la même manière, vous qui avez, je crois, 60% de primes sur vos revenus, et le haut fonctionnaire qui gagne 15, 20 000 euros par mois, vous pensez que c'est la même chose ?
Non, c'est pas la même chose.
Ah, voilà.
Moi, quand j'arrive au bureau à 8h et que j'en sors à 22h et que j'emmène du travail chez moi, y compris le week-end, parce que on a des contraintes qui viennent d'ailleurs que de...
Vous êtes toujours active ?
Oui.
Ouais. La fonction publique, je l'ai vu dans la fonction publique territoriale, mais c'est la même chose pour vous, Christine, dans la fonction publique hospitalière. La fonction publique tient à quelques personnes comme Christine à porter le monde sur les épaules. J'ai vu ça, et il y a plein de gens beaucoup moins efficaces à côté d'eux. Eh bien, ça commence à peine à se réformer.
Tu fais des vrais salaires et tu t'aides jusqu'à ça.
Nous devrions avoir une capacité à donner une prime individuelle à celui qui travaille. La fonction publique commence à peine à arriver à la prime individuelle. Mais si demain on fait des primes
d'efficacité
sur la capacité de chacun à travailler, là peut-être qu'on fera bouger les choses.
Mais tu devrais avoir le droit de licencier, mais on va où ? Moi je me souviens d'une histoire pour mon permis de conduire, ça va faire rire encore ma mère si elle m'écoute, mais je suis tombée sur une folle furieuse, la folle du bus, qui ne voulait rien entendre. J'ai fini quand même par avoir le préfet de Nanterre, le directeur de la préfecture de Nanterre, et qui me dit, mais madame, je ne peux pas la virer, je la change de service en service. Donc en fait, c'est une femme qui coûte un fric fou aux Français et que tu ne peux pas bouger. Donc là, il faut évidemment que les salaires, si 60% ce sont des primes, il faut que ça devienne un salaire point barre et plus des primes, mais que tu dégages et que tu nettoies tout ce qui sert à rien.
Christine, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir été dans les GG. Merci, on va partir dans le Finistère, retrouver Yann qui est à Plougastel-Daoulas. Bonjour Yann.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien?
Parfaitement. Quand vous entendez que du côté de l'inspection des finances, on dit qu'il faut faire le ménage dans les primes des fonctionnaires, vous réagissez comment alors?
Mais je réagis mal parce qu'en fait, les primes, c'est assez compliqué. Moi, je suis à plus de 50% de primes sur mon salaire, ce qui est très bien ma vie, parce que je dois être un peu plus de 2 000 euros net, ce qui fait... voilà, plus de 4 000 au total avec les primes. Sauf qu'en fait, ben, les primes, c'est la seule chose qui nous fait rester. Mais en fait, par contre, ma retraite, elle va pas être bonne. Donc, je suis pas là pour me plaindre, hein, qu'on soit clair, quoi. Mais, les primes, c'est la seule chose qui nous fait rester pour pas aller au privé, quoi. Moi, je préfère rester dans le public parce que, déjà, il y a que là que je peux avoir le travail que j'ai parce qu'il n'existe pas dans le public. Mm-hmm. Je peux pas en parler. Okay. Mais faut arrêter un peu de taper sur nous, quoi. Donc les primes, les primes, ça me servira à rien dans une dizaine d'années quand je serai en retraite, quoi.
Par exemple, on prend un exemple concret, Yann. Vous voyez, après le Covid, on a créé cette prime télétravail. Est-ce qu'elle est justifiée, cette prime télétravail, avec c'était pour compenser, comme on disait, vous savez, c'est les surcoûts de chauffage, d'électricité.
Mais t'as la même chose dans le privé, Alain.
Oui, bien sûr.
Le privé aussi paye une prime télétravail. C'est exactement la même.
243. Oui, mais dans ces cas-là, à ce moment-là, tu dis pour ceux qui sont en télétravail, je sais pas, mais tu joues sur les salaires ou pas, quoi. Tu vois, je sais pas. Puisque le salaire est plus bas, ils sont plus bas dans la fonction publique.
Enfin,
la
prime
en fonction de la catégorie.
Dans laquelle
tu es. Est-ce que vous seriez pour qu'on supprime cette prime, par exemple, Yann?
Moi, j'ai pas eu droit parce que je peux pas faire télétravail dans ma fonction, quoi. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a un moment où on parle beaucoup des retraites. Donc là, on parle des 3 000 euros, des choses comme ça. Là, j'ai entendu aussi par rapport à la dame les 70 000 euros à l'étranger. Oui, c'est sûr, c'est un scandale. Mais il y a combien de fonctionnaires qui sont concernés? C'est ça aussi. C'est toujours pareil, s'il y en a 10 et qu'on tape sur toute l'institution, c'est pas viable. Donc le Covid, oui, c'était là.
On tape pas sur toute l'institution. Ce qu'on regarde du côté de Bercy, du ministère des Finances, c'est que au total, ça fait 19 milliards. Donc on se dit sur 19 000. Ouais, non, mais je comprends. Après, chacun il y a le global et puis chacun le ramène à soi en disant, vous êtes gentil, mais moi ça va m'impacter, quoi.
Mais moi, mon propos, Yann, c'était vraiment, on augmente clairement les salaires des fonctionnaires et par contre, on enlève tous ceux qui servent à rien.
Alors là, je suis d'accord. Sauf qu'après, vous allez vous heurter à nos amis les syndicalistes et là, déjà, c'est un mur. Et d'autre part, c'est toujours facile. Le Bercy regarde les lignes. Moi aussi, dans mon travail, hein, j'ai des gens qui regardent que les lignes. Moi, voilà, mon travail, c'est ils regardent mon travail à travers des codes à 15 chiffres. Ils comprennent rien. Je ne comprends rien. Je leur envoie les codes. Mes collègues leur envoient les codes. Et voilà, tout le monde est content. Après, on ne sait pas ce qu'ils en font derrière. Tout ce qu'on sait, c'est que on fait tous notre travail. Moi, mes collègues qui gagnent à peu près la même somme que moi, on fait tous notre taf. On est tous investis dedans et c'est assez compliqué en fait de se faire taper dessus. Je suis la bonne poire, hein, célibataire, 53 ans, 18,7% d'impôt. C'est le jackpot, quoi.
Yann, est-ce que vous seriez d'accord comme moi qu'on aille sur une individualisation des primes, beaucoup plus de primes au résultat, à l'activité?
Ça marchera jamais. Ils nous ont fait une. Alors,
les
je vais
compléments
vous raconter
individuels. Là,
ouais. Écoutez la petite histoire. La première prime qui a été créée comme ça, en fait, ils ont donné quatre sommes. Voilà, en gros, c'était 300, 600, 900, 1200 euros, 40%, 30%, 20%, 10%. Mm-hmm. Ça a marché un an. Parce qu'en fait, la somme était ridicule par rapport à la paye des gens. Ok. Et en fait, les gens, ceux qui ont eu les 40% qui ont pas eu beaucoup, au début ils s'en fichaient, puis après ils sont allés voir les autres, et puis après ça a commencé à râler, puis du coup le syndicat s'est mis dans la boucle. Donc du coup la prime a été transformée, et maintenant c'est une prime
la
générale avec un delta ridicule. Voilà. Donc la prime ne fonctionne. Enfin la prime, c'est dans le monde des bisounours. Malheureusement, je suis d'accord avec vous.
Les évaluations individuelles des agents qui travaillent sur la responsabilité.
Il y a déjà une chose peut-être avant de faire des économies, c'est comme on le dit du côté des finances, c'est rationaliser et homogénéiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu dans ce système de primes. C'est une espèce de maquis, une espèce de jungle. C'est comme ce qu'on appelle les niches fiscales.
Il y en a
plus de 500 aujourd'hui, plus de 600 aujourd'hui en France. Et on ne sait plus à quoi elles correspondent. Après, pour les niches, ce qu'on dit à chaque fois, c'est dans chaque niche, j'avais un chien qui est prêt à mordre. Mais je pense que pour chaque prime de fonctionnaires, vous aurez un syndicat qui sera prêt à se mettre en grève à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je disais qu'en fait, la machine est folle. C'est le gouvernement qui l'a entretenu lui-même. Enfin, c'est l'État, les États successifs, les gouvernements successifs. Et qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment l'arrêter.
Le truc,
c'est ça le souci aujourd'hui, Yann.
Si je peux me permettre.
Oui, je vous en prie.
Le truc, c'est qu'en fait, je suis d'accord qu'il faut aller voir de plus près. Mais le problème, c'est pas en regardant des lignes de code. En fait, il faut affiner la chose. Mmh. Il faut des audits précis par des gens. Par des gens qui sont pas là pour c'est exactement comme dans de l'hospitalier avec le
oui, mais si vous demandez un audit, vous demandez à qui l'audit? Vous n'allez pas demander aux personnes
aux fonctionnaires
de se juger elles-mêmes. Non, mais vous aurez toujours
justement pas.
Et ben voilà, ça sera
bureaucrate.
Justement pas, parce que les fonctionnaires, ils sont dans leur galaxie, ils sont pas parmi nous, ils nous regardent même pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de...
Et moi, il n'est pas question de leur en vouloir en plus. Hein. Si vous voulez, ils sont eux-mêmes, ils vont se retrouver victimes d'un système qu'ils n'ont pas créé, qu'ils n'ont pas demandé et qu'ils n'ont pas entretenu.
C'est une assemblée citoyenne, des gens tirés au sort.
Vous voyez, donc c'est ça,
Marianne, et ce en quoi je suis d'accord, c'est que l'approche comptable ne résout rien. Si tu sabres juste toutes les primes, en fait, tu casses encore plus la machine.
Alors, quelle approche?
Eh ben, pour moi, la seule approche possible, c'est l'individualisation des primes. Et effectivement, on se heurte aux syndicats, on se heurte aux gens qui disent non, mais il faut que la prime soit la même pour tout le monde. Mais si on n'arrive pas à ça, en fait, à défaut de pouvoir supprimer le statut des fonctionnaires, tu individualises la prime. Et donc, celui qui ne bosse pas voit son salaire largement diminué au salaire de base, et celui qui bosse vraiment voit son salaire augmenter.
Mais du coup, la prime chaussure,
au risque de créer de nouvelles niches. Parce que qui dit individualisation de la prime, ça veut dire individualisation des conditions qui amènent la prime. Et tu vas devoir établir une liste de conditions qui fait que tu as droit à 300, 600, 900.
Le manager fixe des objectifs par an. Traitement de 300 dossiers dans l'année. Accueil de 300 citoyens par mois. Et ça, c'est des objectifs chiffrés. Et celui qui atteint les objectifs, il a sa prime. Celui qui les atteint pas, il l'a pas. Et donc, celui qui les atteint pas, il va comprendre que, on peut plus ne rien faire dans la fonction publique si on veut être correctement payé.
Ouais. Merci d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Là encore, on a posé la question sur les réseaux sociaux, les primes des fonctionnaires, est-ce qu'il faut faire le ménage, oui ou non? Vous dites oui à plus de 88%. Dans un instant, c'est peut-être le ménage chez les VTC qu'il faut faire. Les VTC, pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour devenir chauffeur VTC, il y a un décret qui vient de supprimer l'équivalence pour les professionnels du transport à la personne. C'est-à-dire que vous pouviez justifier, vous aviez transporté une personne, vous montriez l'attestation et vous pouviez devenir VTC. Visiblement, il y a eu beaucoup de fraude, trop de fraude. Donc désormais, c'est examen pour tout le monde, examen obligatoire. Est-ce que ça va faire remonter le niveau des VTC, revaloriser les VTC? Est-ce que ça s'était vraiment dégradé, les VTC? Est-ce que c'est une bonne chose? Vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Je vous donne la parole comme tous les jours au 32-16. On terminera en parlant de l'éclipse tout à l'heure. L'éclipse ce soir, bon nombre d'entre vous vont mettre les lunettes. Faites-le, il faut mettre les lunettes spéciales pour regarder. Peut-être que ça ne vous intéresse pas non plus. Hein. Donc après tout, ça, vous avez le droit
de vous taper complètement. 3 minutes de bronzage, ça va pas.
C'est devenu une affaire politique parce que du côté des écologistes, voilà ce qu'on dit. On dit c'est un fiasco de santé publique. Et on rappelle qu'en 99, le gouvernement avait distribué 2 millions de paires de lunettes. C'est l'équivalent de 2 millions et demi d'euros. Sauf que là, du côté des pouvoirs publics, on dit c'est l'affaire de chacun. Donc l'éclipse, est-ce que vous avez vos lunettes? Est-ce que c'était au gouvernement d'acheter quelques milliers de lunettes, oui ou non? On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. D'abord, on va regarder ce qui se passe du côté des VTC. Les VTC, on n'est plus dans la bagarre avec les taxis, même. Bon, elle est toujours latente, mais elle n'est plus aussi vive que ce qu'elle a été lorsque Uber et d'autres sont arrivés sur le marché. En revanche, on se rend compte qu'il y a eu quand même une dégradation de la qualité des VTC, qu'il y a eu beaucoup de fraudes, notamment à ce qu'on appelle l'équivalence pour les professionnels du transport de personnes. Vous pouviez justifier que vous aviez fait lors des dernières années du transport de personnes, eh bien vous pouvez devenir directement VTC, sauf que désormais, c'est fini. Il y a un décret qui dit non, stop, c'est examen pour tout le monde. L'examen, épreuve théorique, épreuve de mise en situation, c'est-à-dire une prestation de transport dans des conditions réelles afin de démontrer que vous avez les qualités requises pour exercer la profession. Alors, est-ce que c'est ça qui va, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Est-ce que c'est ça qui peut aider à remonter aussi le niveau de VTC. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, Abel.
Alors, sans jeter l'opprobre sur tous les chauffeurs VTC, c'est vrai que quand tu montes avec certains, t'as l'impression que le gars, il te prend pour son pote ou pour son voisin de palier. Il n'y a pas le côté professionnel, il y a un côté très familier. La tenue vestimentaire aussi, donc ça, on n'en parlera même pas. Des fois, t'as des gens, limite, ils sont en chaussettes claquettes. Il y a eu pas mal d'histoires d'agressions sexuelles aussi envers des clientes. Donc, je trouve que c'est normal si dans certains métiers de prestation de service, on te demande un diplôme ou au minimum une agrémentation. Je pense que c'est normal que pour les VTC, où déjà les conditions de travail sont très floues, c'est ce qui avait fait aussi un petit peu la grogne avec les taxis. Pour moi, il est normal que les chauffeurs soient mieux drivés et qu'ils aient une formation et un examen à la clé, parce que ça doit rester.
Examen pour tous.
Mais oui, mais ça doit rester un service professionnel de qualité, et on peut pas se retrouver avec des chauffeurs qui sont comme ça un petit peu en dilettante. Voilà, non, pour moi c'est une bonne mesure.
Laura.
Oui et non. C'est-à-dire que sur le marché, tu as quand même, moi je me souviens d'à l'époque de quand Uber est sorti, c'était vraiment, il y avait Uber et chauffeur privé à l'époque, et là tu avais vraiment des gens hyper chics qui venaient, costume ou minima la petite chemise, etc. Tu avais la bouteille d'eau, les bonbons, le chargeur, etc. Et tu avais pas une annexe de la salle à manger du mec à l'avant, parce que là maintenant c'est ça, hein, t'as la moitié du salon et tout. Et ensuite, tu as Bolt qui est arrivé et d'autres où justement là, tu savais ce que c'était, c'est-à-dire tu payais moins, mais par contre c'était une personne lambda comme toi qui avec sa propre voiture venait te chercher et te faisait les courses, etc. Et tu savais que t'avais ça. Maintenant le problème c'est que les prix de Uber ont augmenté, le salaire des chauffeurs lui a diminué, donc forcément ça attire moins. Je suis désolée. Alors oui, la formation pourquoi pas, parce que moi il y en a quand même qui m'ont fait flipper dans la conduite. Il y a des fois où j'ai vraiment serré les miches, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que ben, quand tu es chauffeur Uber, moi, ça me pose aucun problème. Je me dis, si je veux un service pour que la personne soit mieux payée, ben, je la paye mieux. Et si je ne veux pas avoir le service un peu chic, un peu classe de Uber, eh ben, dans ces cas-là, je me retourne vers Bolt, Volt, etc., où justement, la prestation est moins qualitative, mais forcément, dans ce cas-là,
aujourd'hui,
je paye moins.
Aujourd'hui, la différence, tu la vois plus.
Tu la vois plus, hein,
franchement, Uber, Bolt, c'est quasiment pareil aujourd'hui.
C'est ce que je dis. Non, mais t'as aussi le... Ben, c'est Bolt, les gens qui sont, qui sont indépendants.
Oui, oui, bien sûr. Mais même aujourd'hui chez Uber, tu peux choisir ton véhicule.
Alors,
tu as le berline, tu as le confort, tu as le classique, tu as l'éco.
Donc moi, il devrait y avoir un standing imposé. Oui, et forcément, bah, avec la formation, il transporte quand même des gens. Hein.
Oui, bien sûr. Le souci, c'était aujourd'hui même, c'était de se dire, tu te retrouvais face à des gens où, effectivement, il n'a jamais conduit quelqu'un de sa vie, il s'en fiche.
Est-ce que son permis, c'est vraiment son permis?
Il fait ça parce qu'il a du temps à perdre. Est-ce qu'il a même la licence? Ou c'est un pote ou un cousin qui lui a dit, vas-y,
ça, gros,
prends ça pendant 3 jours, parce que de toute façon, je gère 7-8 véhicules. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rationaliser. Et d'ailleurs, tous les mois, les réseaux des chambres de métiers et d'artisanat vont organiser des examens qui existaient pour certains, et l'équivalence va permettre de dire à ceux qui venaient justement avec un papier, dire maintenant c'est fini, vous passez sous les fourches codines. Tu penses que c'est une bonne chose,
C'est une
Antoine
bonne chose, et je pense justement, c'est ce que j'allais dire, que c'est à la profession de s'organiser.
Ah oui.
C'est au syndicat des VTC, aux chambres des métiers, de faire le ménage chez eux. Parce que on peut pas se dire libéral et en avoir marre que l'État réglemente tout et soutenir encore une obligation de formation et d'examen. Bon, moi je pense que c'est les groupements professionnels qui devraient faire le ménage. Je pense que ce sont les plateformes qui devraient vérifier que la voiture est propre, que le bonhomme te conduit correctement.
Hein, tu prends des clients au hasard, tu leur dis ta course elle est gratuite, mais par contre tu nous fais un retour.
Après, sur la plateforme, tu peux faire des remarques.
Et tu fais tes remarques.
Des notes,
et donc les plateformes devraient éjecter plus largement les chauffeurs de mauvaise qualité. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on atteint une forme de quasi-monopole d'Uber qui, en ayant balancé beaucoup de dollars pendant des années, a pris tout le marché, ou quasiment tout le marché, et qu'aujourd'hui, ils sont un peu hégémoniques sur le marché. Mais je rêverais qu'on puisse voir apparaître des plateformes indépendante, ou que il puisse y avoir des plateformes où la qualité du service soit mise en avant, des plateformes qui te certifient que le chauffeur, il a pas de casier, il a été vérifié, etc. Et donc moi j'aurais plutôt tendance à croire en la loi du marché,
Moi, je voudrais la transparence de combien il est payé le chauffeur.
Et pas en une nouvelle formation qui va coûter de l'argent, qui va nous faire nous créer des fonctionnaires pour faire ses examens, etc.
Oui, non, mais il a raison.
On a Fally qui veut réagir, chauffeur VTC du côté de Villeurbanne. Bonjour Fally, 34 ans. Bienvenue.
Bonjour.
Chauffeur VTC depuis longtemps ?
Chauffeur VTC depuis 3 ans, ouais.
3 ans. Et qu'est-ce que vous pensez alors justement aujourd'hui du fait que tout le monde devra passer l'examen ?
Alors moi, je veux vous dire, moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Je suis d'accord avec ce que Laura a dit. C'est qu'aujourd'hui, la dégradation du métier VTC vient des plateformes. C'est eux-mêmes qui sont à l'origine de la dégradation du métier VTC, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ils veulent que ce métier VTC soit pareil comme le métier de livraison de repas, en fait. C'est-à-dire avoir plus de chauffeurs dans le métier VTC, peu importe comment ils arrivent, que ça soit par équivalence ou que ça soit par des faux chauffeurs ou que ça soit par des vrais chauffeurs. Mais en tout cas, avoir le plus de chauffeurs et à ce moment-là, bah, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi le métier s'est dégradé ? Vous avez des chauffeurs aujourd'hui qui sont très très mal payés par la plateforme et ils ont augmenté leurs commissions et ça personne n'en parle. Vous avez une, vous avez des chauffeurs, vous avez la plateforme aujourd'hui, elle vous prend jusqu'à 45% de commission sur une course. Hier, j'avais une course de l'aéroport pour aller dans Lyon 6e. La plateforme, elle m'a donné la course à 30 euros. Quand je suis arrivé devant le client, je regardais dans le bon de commande, ils ont pris 70 euros au client. 70 euros.
Voilà, moi, j'aimerais bien avoir le détail de combien je paye mon chauffeur.
C'est pas normal.
Et des fois, même, Fally, les plateformes font des promotions sans vous prévenir. Moi, ça m'est arrivé. J'ai pris un chauffeur.
Oui, voilà, c'est ça.
Et il arrive à commencer avec une promotion de moins 20%.
Comment voulez-vous que le métier soit qualitatif si derrière, en fait, les chauffeurs sont très mal payés et avec énormément de faux chauffeurs
dans
le métier ?
Il y a deux choses. On est d'accord avec vous, Fally, qu'aujourd'hui les plateformes, elles prennent trop, 45%, c'est énorme, on dirait l'État.
C'est énorme.
Mais Fally, surtout aujourd'hui, ce qu'il fallait corriger, c'était le fait, comme l'a dit justement Laura, c'est qu'on se retrouvait face à des gens où on se disait mais c'est pas leur métier, voyez. Et ça, est-ce que c'était à cause de l'équivalence? Aujourd'hui, c'est terminé. Est-ce que l'équivalence, justement, ça faisait arriver trop de gens qui n'étaient pas vraiment des chauffeurs VTC, Fally?
Exactement, ça déséquilibre complètement le marché parce que vous avez des chauffeurs de bus, vous avez des ambulanciers qui arrivent, qui connaissent même pas le métier, le cœur du métier, et qui vont se lancer comme ça du jour au lendemain, ou qui le font juste par week-end. Mais c'est des gens qui salissent la profession parce qu'ils n'ont pas subi vraiment des vraies formations. Moi qui vous parle, moi j'ai passé une formation, j'ai passé un examen théorique. À l'écrit, j'ai passé un examen pratique et aujourd'hui, bah, quand je fais le métier, je connais bien les règles du métier. Mais vous avez ceux qui arrivent en équivalence, qui connaissent pas du tout ça et qui se lancent et ça cause un déséquilibre. Et ce que je tiens aussi à signaler, il faut savoir qu'un chauffeur VTC, auprès de l'URSSAF, nous, on nous demande de déclarer ce que le client paye à la plateforme.
Ah oui?
Donc, ça veut dire que vous avez, c'est-à-dire que si vous, le client que j'avais pris hier qui avait payé 70 euros, eh ben, auprès de l'URSSAF, moi, j'ai touché 30 euros, mais moi, je devrais déclarer les 70 euros auprès de l'URSSAF. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Non, c'est vrai, vous avez raison.
Ils payent pas du tout d'impôts, et c'est à nous de payer les impôts à leur place, alors qu'ils se font des milliards de bénéfices.
Alors, Fally, on va écouter Martial pendant 2 minutes, là encore, qui est dirigeant d'une entreprise VTC. Bonjour Martial.
Oui, bonjour.
C'est bien d'arrêter ces équivalences et de passer directement à l'examen pour tout le monde ?
Non, c'est bien, mais ils n'ont pas été au bout des choses. Parce que justement, aujourd'hui, vous avez le VTC est rassemblé dans tout le même panier entre les anciennes sociétés de grande remise qu'on appelait le limousine service et aujourd'hui les plateformes. C'est deux métiers totalement différents. Et aujourd'hui, même moi, dans mon entreprise, j'arrivais à faire passer des anciens chauffeurs grand tourisme, donc qui ont quand même l'habitude du service sur du voyage touristique, de passer cette équivalence et d'obtenir leur carte de chauffeur VTC parce qu'ils veulent s'orienter sur un autre métier. Et en plus de ça, vous avez quand même moyen d'avoir des formations en interne. Donc, si vous voulez, un chauffeur d'autocar grand tourisme peut très bien faire un très bon chauffeur VTC. Certains parlent l'anglais, certains parlent l'espagnol, certains parlent le portugais. Donc, peut en plus faire de l'accueil sur de la clientèle étrangère. Donc, oui, il faut réglementer, il faut des formations et des examens, parce que ça limite aussi les dégâts sur des gens qui s'installent en tant que VTC pour une plateforme. Et honnêtement, ça met une régulation. Mais pourquoi brider des chauffeurs qui peuvent être... qui peuvent être capables et surtout ça empêche de créer de l'emploi parce qu'on a quand même une pénurie de vrais chauffeurs.
Bah justement, cette pénurie de vrais chauffeurs, ceux qui veulent vraiment devenir VTC, bah, ils passeront l'examen.
Peu importe si vous voulez.
Le but, c'est simplement de mettre une espèce de filtre, voyez, et d'empêcher des faux et d'empêcher de la fraude.
Mais ça passe aussi par la rémunération.
Oui, ça c'est autre chose.
Il ne faut pas oublier une chose. En fait, la rémunération ne rentre pas en cadre. La réglementation au niveau des salaires. Pour moi, les salaires VTC, c'est pas des salaires. Ils ont des revenus. C'est du chiffre d'affaires. C'est pas du salaire. Nous, les chauffeurs, c'est des contrats, soit saisonniers, soit CDI à l'année. Il y a une convention collective.
Martial, attendez, on a perdu Martial. Allez-y, finissez.
Oui, donc je disais, les salaires, c'est pas un problème. Il y a une convention collective. Formation ou pas formation, examen ou pas examen, ils sont rémunérés sous le même régime de la convention collective. Mais ça n'empêche que, oui, il faut des examens, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y avait une souplesse à laisser sur certains métiers, tels qu'un, par exemple, un chauffeur de car grand touriste. Moi, aujourd'hui, sur mon parc, j'ai des véhicules de transport voyageurs, donc de minibus de 15, 16, 17 places, où il faut un permis D, donc des transports en commun, et j'ai des chauffeurs VTC. Et bien, certains chauffeurs ont les deux, font le mixte. Et certains ont passé une équivalence à l'époque, et aujourd'hui, c'est d'excellents chauffeurs VTC.
Mais tant mieux.
Alors, c'est pas de plateforme, évidemment.
Alors, attendez, Martial, parce qu'Abel voulait réagir à ce que vous disiez.
Sans parler de votre entreprise où, semble-t-il, les choses se passent bien, moi, il m'est arrivé de prendre des chauffeurs VTC, ça sentait le shit dans la voiture, quand même, quoi. Il faut pas oublier qu'à la base, quand Uber arrive sur le marché, la communication était très agressive, pas de façon officielle, mais sur le terrain contre les taximans qui étaient grincheux, qui étaient trop chers, dont la qualité de service se dégradait. C'est ça donc on nous disait de l'autre côté, on allait payer moins cher, on allait avoir des chauffeurs plus humains, et en réalité, on voit que quelques années plus tard, bah, pour certains chauffeurs, on n'est pas loin de la catastrophe sans vouloir généraliser.
Je vous confirme. À l'époque, le métier s'appelait la grande remise. Les VTC n'existaient pas. Mmh. On était sous la grande remise, on dépendait des préfectures, il n'y avait pas de guerre entre les taxis et les sociétés de limousine service, chauffeurs privés. En 2009, quand M. Sarkozy est arrivé à balayer tout ça en créant avec Atout France le statut des VTC et en injectant les plateformes avec Uber, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Et aujourd'hui, vous prenez un Uber dans n'importe quelle région. Moi, je voyage tendance à Paris. J'ai testé les Uber, mais c'est une catastrophe.
Ah ben, on est d'accord.
C'est pas des chauffeurs privés. C'est du bas de gamme. Et après, vous avez le prix qui va avec.
Oui, on est d'accord, Martial. Et alors, tout le paradoxe, c'est que, et je vous remercie en tant que dirigeant d'entreprise de VTC d'avoir été avec nous, tout comme Fally. C'est que quand de temps en temps vous notez mal un chauffeur, il vous dégrade la note aussi. C'est-à-dire que les types comprennent pas pourquoi vous les avez mal notés. Et après tu te fais dégrader toi en tant que client. Et je me souviens un jour, c'était il y a quelques années, j'arrivais pas à avoir un Uber. Et puis il y en a un qui vient, il me dit monsieur vous êtes mal noté. Je lui dis vous rigolez ou quoi? Je lui dis pourquoi je suis mal noté? Ben j'étais mal noté en fait parce que j'avais sanctionné quelques-uns qui n'avaient pas été qui n'avaient pas été à la hauteur, le véhicule était pas bon. Merde, j'ai dit putain c'est gonflé quoi. Non, les gars, acceptez d'être mal noté si ça se passe pas bien non plus, si votre véhicule est pas propre et que ça sent le McDo, par exemple, des fois quand on rentre dans la voiture, vous êtes en train de manger ou derrière c'est sale quoi. On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Un examen désormais à passer pour tout le monde pour devenir VTC, logique. Vous mettez bien sûr à 92,8%. Allez, on va terminer en parlant de l'éclipse. Est-ce que vous avez la regardée? Est-ce que vous avez pris vos lunettes? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que, comme les écologistes, vous pensez que c'est à l'État qui aurait dû fournir quelques milliers de lunettes? C'est au 32-16 que ça se passe avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Discuter avec les GG, ça se fait au 32-16, en direct jusqu'à midi, au 32-16 avec Laura Varton-Martinez, avec Abel Bouilly, avec Antoine Diers. Et là, pour terminer, on va parler de cette fichue éclipse.
T'as une danse?
Mais non, on peut pas y échapper à l'éclipse. Mais je veux dire, moi j'ai hâte de la voir. Alors j'ai la chance, j'ai trouvé des...
Moi je voudrais te voir avec.
Je voudrais des lunettes.
Tiens, qui te les a payées? C'est le gouvernement qui te les a payées ou pas?
Oh là là!
Voilà, c'est ma... c'est l'entreprise, c'est RMC, c'est BFM TV, parce que ce soir, on a une émission spéciale, et à un moment, on va se retrouver sur le toit de BFM TV. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, on a vu la course pour avoir les lunettes, il y a eu des commandes sur les sites internet, il y a aussi une pénurie, il y a des commerces qui n'en avaient plus, il y a eu le fil d'attente. Et du côté des écologistes, Marine Tondelier a dit, bah ouais, mais c'est ce qu'on appelle un fiasco sanitaire, parce qu'en 99, fiasco de santé publique, en 99, la dernière éclipse, eh bien, le gouvernement avait acheté des lunettes, distribué 2 millions de paires, ça avait coûté l'équivalent aujourd'hui de 2,5 millions d'euros, et au moins il avait pu aider des gens qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter des lunettes. Écoutez ce qu'en disait justement la sénatrice Souiris, écologiste, elle était sur RMC ce matin.
Là, ce que nous reprochons, c'est pas de pas avoir donné à toute la population française des lunettes, c'est de se dire qu'il fallait une information ciblée auprès des personnes les plus fragiles et qu'elles, il fallait aussi savoir lui donner des lunettes. On fait encore moins qu'il y a 27 ans. Enfin, c'est vraiment le désert cette année du gouvernement pour l'été. Une éclipse, vous voyez, c'est prévisible.
Alors, vous voyez, c'est pas faire pour les plus précaires, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas forcément toutes les informations. Ils ont raison ou pas? Qu'est-ce que vous en dites, Abel?
Alors, le mot fiasco est peut-être un peu fort, mais moi, je me souviens, en 99, comment ça s'est passé. Il y avait eu quand même la sauce, elle a été montée 3 mois avant. C'est-à-dire qu'on l'attendait comme un événement. Ouais. Tandis que là, je me dis, moi, je m'en fous totalement, quoi. J'ai l'impression, on en parle depuis une semaine. J'extrapole, bien entendu, mais je sens pas l'engouement qu'il y avait en 99. Après, est-ce que le gouvernement aurait dû acheter 2, 3, 4 millions de paires de lunettes pour les plus précaires, les personnes seules ou autres? J'ai pas la réponse à la question, mais honnêtement, moi, je trouve que la manière dont on nous a pas préparé à cet événement qui reste exceptionnel. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'en fichent.
Et... arrêtez d'en parler, quoi.
Non, récemment, alors, en 99, trois mois avant, déjà, on préparait la population et il y avait même une meilleure prévention sur le plan sanitaire. Et même aujourd'hui, la chose est tellement prise à la rigolade que t'as des challenges TikTok, Snapchat et sur Telegram entre jeunes qui se défient qui va regarder l'éclipse sans lunettes. C'est à ce point-là, hein, en mettant totalement de côté le fait sanitaire. Donc oui, moi je pense qu'il y a quand même un loupé à ce niveau-là.
Un loupé au niveau de l'info.
En termes de la prévention, Laura, de l'info et de la préparation de la population.
T'as pris des lunettes, tu vas regarder ou pas?
Ouais, sur la plage.
T'as acheté les lunettes?
Ouais, on a acheté deux.
T'as pas besoin quand on achète.
Non, mais parce que je fais partie des gens qui peuvent se payer, des lunettes.
Ce soir, tu seras de retour à la plage ce soir.
Oui, à 16h35, j'arrive à Fille.
Arrête de frimer.
Je sais. C'est pour pas faire le bronzage. Alors, effectivement, ça coûte 2 euros, etc. Moi, c'est pas sur le temps de qui peut pas, etc. Ça aurait été, par exemple, d'en donner au centre aéré pour que les enfants, puissent avoir, parce que le parent n'y a pas pensé. C'est plus ça, c'est celui qui a pas pensé. Il y a plein de gens qui se réveillent à la dernière minute. Le sujet, c'est pas, la lunette, elle coûte 2 euros, c'est, il y en a plus. Donc, moi, c'est plus à ce niveau-là, que les enfants qui sont dans les centres aérés, etc., et que les parents bossent, parce que du coup, s'ils sont en centre aéré, c'est que les parents bossent et qu'ils n'ont pas pensé à l'éclipse et tout.
À 19h30,
qu'ils puissent voir. Moi, je me souviens.
Ils seront avec leurs parents.
Nous, c'est ce qui s'était passé. La mairie avait acheté des lunettes. Moi, pour l'éclipse de 99, j'étais au centre aéré. Et la mairie avait acheté, c'est ma mère qui m'a rappelé ça, avait acheté les lunettes pour les éclipses, et on était tous en randonnion dans la cour comme ça à regarder, et on avait un prof qui était venu, qui nous avait expliqué, etc. Pour le côté pédagogique. Maintenant, pour le côté financier, je pense que celui qui veut vraiment voir l'éclipse, il trouve le moyen de trouver 2 balles, quoi. Maintenant, c'est la quantité qui manque.
On a Sébastien qui veut en parler avec nous, Sébastien de Seine-et-Marne. Bonjour Sébastien.
Bonjour l'équipe.
Qu'est-ce que vous répondez aux écologistes, Sébastien?
Il y en a marre. Il y en a marre. En fait, moi, je suis un artisan où je travaille, je prends quasiment pas de vacances. Alors, pour d'autres raisons que l'aspect financier. Mais même si l'aspect financier le permettait, ce serait très compliqué. On est tous en train de crever. Tout ce qui fournit de la richesse à l'État, on est tous en train de crever, c'est-à-dire les entreprises. Et là, on a une éclipse qui arrive et on nous dit, il faut que l'État paye les lunettes. Mais à un moment donné, t'es capable de payer ton shit, t'es capable de payer tes clubs, t'es capable de payer ton smartphone à 500 euros, de faire la queue pendant 3 jours devant Apple quand ils vont sortir leur dernier téléphone. T'es capable de payer plein de choses, mais t'es pas capable de payer des lunettes à 2 euros. À un moment donné,
il a complètement raison.
L'État a suffisamment donné. On a je ne sais pas combien de millions de chômeurs. Moi, je cherche quelqu'un depuis 3 mois. Je trouve personne parce que les mecs veulent faire 35 heures. Faut qu'à 17 heures, ils soient au centre en train de récupérer leurs enfants, machin, tout ça.
Attendez, vous pouvez. Allez-y, passez votre annonce. annonce là. Vous cherchez dans
quelqu'un qui veut travailler.
Je cherche plus parce que la situation financière fait que je sais même pas si je pourrais payer mon salarié vu les charges qu'il y a et tout ça. Donc à un moment, je cherchais quelqu'un parce que j'avais plus de travail. J'ai même pas pu embaucher. J'ai dû refuser de prendre du travail.
Ouais, donc arrêtez. Vous dites à certains, arrêtez de nous gonfler pour que le gouvernement achète des lunettes.
Quoi, c'est
ça. Je suis artisan. Je suis artisan. J'ai la corde autour du cou, j'arrive pas à payer mes factures comme il faut, et on vient me dire il faut que l'État paye encore si, mais qui va payer? Moi?
Bah oui.
Les artisans qu'on connaît, on est tous en train de galérer à se demander à augmenter nos prix parce qu'on n'a pas le choix d'avoir des clients qui comprennent pas pourquoi on prend si cher. Quand j'explique à mon client tout ce qui lui il paye, qui n'est pas pour moi, mes clients hallucinent. Et il faut encore payer des lunettes, faut encore payer. Bientôt, va falloir payer les parapluies quand il va pleuvoir, va falloir payer les pompes de relevage quand va y avoir des inondations. Là, on va payer la crème solaire parce que c'est une canicule.
Ouais, enfin, mais il a raison. Hein.
Antoine,
je suis entièrement d'accord avec vous, Sébastien. Dans ce pays, il faudra bientôt tout payer. Et l'exemple de la crème solaire. Moi, je suis en grande précarité caniculaire avec ma peau et ça coûte cher en crème solaire en ce moment.
Mais regardez en début de semaine, Sébastien. Regardez le débat qu'on a eu en début de semaine sur les fournitures scolaires. À tort ou à raison, Eric Ciotti,
Alors, les fournitures scolaires, c'est un autre débat pour moi, parce que les fournitures scolaires, c'est ce qui fournit la richesse de plus tard de notre pays. C'est-à-dire que qu'on fournisse, par rapport aux inégalités, je peux le comprendre, même si aujourd'hui on a une allocation de rentrée scolaire qui n'est pas que sur les fournitures, et les gens, non, quand ils en parlent, c'est d'une débilité profonde, parce que les fournitures scolaires, l'allocation de rentrée scolaire, elle sert aussi à payer des vêtements pour tout au long de l'année scolaire et tout ça. Donc, maintenant que des mairies interviennent pour qu'il y ait une égalité dans les classes entre les personnes qui ont moins de moyens et les personnes qui ont des moyens, ça, je trouve ça tout à fait normal. Pour moi, ça fait partie de l'égalité que doit représenter notre pays.
Là, ça vous dérange pas de
pays,
payer.
Représenter notre pays.
Donc, ça vous dérange pas à ce moment-là d'acheter un stylo et un cahier, quoi. Faut pas exagérer, quoi.
Alors, ça me dérange pas d'aller payer un stylo et un cahier. Pour qu'il y ait une égalité d'éducation pour tous les élèves.
Bah là, et vous voulez pas l'égalité pour regarder
dans ces cas-là, c'est l'école qui fournit les fournitures. Et tout le monde a la même chose.
Exactement. L'école fournit les fournitures. Il y a aucun problème, ça évite les.
Il faut regarder, justement, en 99, faut se souvenir qui était Premier ministre.
Lionel Jospin.
Voilà, on était dans un gouvernement socialiste, communiste, écologiste.
Mais l'éclipse, elle avait lieu en plein après-midi.
La
situation financière, voilà, on était bien à l'époque.
Mais c'est pas une question de situation financière.
Bah si,
non, parce que justement, les décisions.
L'éclipse, tu la regardes ou pas. Si tu veux la regarder, tu t'achètes toi-même tes lunettes qui valaient 1 euro la semaine dernière.
Moi, j'ai pas de souvenir de 99 des lunettes distribuées largement. Hein. Je sais pas à qui elles ont été, mais c'était pas à moi. Et je me souviens avoir eu ma paire de lunettes dans mon magazine d'enfants.
Il y avait ça, mais il y avait aussi des lunettes. Merci Sébastien. Vous aurez conclu la discussion. Éclipse, pénurie de lunettes. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler de fiasco de l'État ou pas? On va regarder rapidement ce que vous en pensez sur les non à 65, mais il y a quand même un oui à 34%. Voyez. Allez, on se retrouve demain entre 9h et midi. Passez une bonne journée. N'oubliez pas les podcasts.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.